ce lieu ici, cet emplacement ici, le long de la Beune, avait plein d'avantages. Il était au pied de la falaise, entre la falaise et la rivière Beune. Il était dans le système d'accès au musée. C'était un lieu extrêmement connu, qui était une friche industrielle au moment où on l'a récupéré, mais qui était un lieu historique de ces moulins le long de la Beune, et puis qui a été connu de génération en génération comme ici d'abord une minoterie, puis une usine d'aliments assez connue en Dordogne, qui est la SNAT, qui existe toujours en banlieue de Périgueux, et dans laquelle beaucoup de gens ici ont travaillé d'une manière ou d'une autre, soit en production, soit en tant que commercial, soit en tant qu'administratif. Voilà, des gens qu'on côtoie quotidiennement ici aux Aisies. Donc l'idée de dire, on a un lieu qui est à la fois un lieu de vie, qui est un lieu dans lequel on a accès à la rivière et à l'eau par le biais d'un bief, qui va permettre une ouverture, puisqu'on est du côté ancienne rue historique des Aisies, qui allait de Périgueux à Montignac, qui passait sous la falaise, et qui a été supplanté, et on revient à l'histoire de la préhistoire, par cette grande rue actuelle, qui est en fait le tracé d'une voie de chemin de fer qui devait relier la gare, quand elle est arrivée en 1863, et la forge, qui est un tout petit peu plus loin sur la Beune, forge historique, puisque le lieu des Aisies, c'est intéressant de dire minoterie, usine d'aliments, les Aisies, c'est aussi où l'endroit où la laiterie Fromarsac a démarré. Historiquement, cette laiterie qu'a Marsac en banlieue de Périgueux a démarré ici aux Aisies, et cette forge. Donc c'était un lieu pré-industriel en quelque sorte. Il se trouve que la forge ferme quasiment en même temps que la gare arrive, et que cette voie de chemin de fer censée amener la production de la forge vers le train ne sert plus, et que ça devient la grande rue qui supplante cette rue arrière sous la falaise. Qu'est-ce qu'on a fait dans le projet? On a relié ces deux rives de la Beune en mettant un parking du côté Grande Rue, un système de déambulation qui est un système qui permet au public d'entrer dans la préhistoire, d'entrer dans le paysage. C'est vraiment ça. Je passe la Beune, j'ai la falaise en face de moi, et j'arrive devant un bâtiment qui, pour le coup, a été conçu dans le programme comme un geste architectural, donc ce bâtiment de béton, de verre, de lumière, dans lequel ensuite on a la proposition d'une rue intérieure qui fait qu'on ne peut très bien que le traverser. Et ça arrive qu'on ne fasse que le traverser.
Le but pour nous, c'est effectivement d'avoir trouvé une architecture qui soit en mesure de raisonner avec le site et avec sa force. Donc d'être une architecture relativement forte, certainement ça c'est notre but, mais en même temps qu'il soit suffisamment en retrait pour venir laisser le site s'exprimer. Voilà. C'est-à-dire donc tout ça, ça veut dire que le site, ça veut dire qu'on va laisser s'exprimer le calcaire, la hauteur de la falaise, on va laisser être tapis plutôt dans le bas du terrain. On va essayer d'épouser aussi les tours et les détours de la Beune. On va rester tourné autour des arbres. On a abattu deux arbres uniquement sur le projet. Donc, le projet est fabriqué et vient s'insérer, vient jouer, tous ces aspects-là qui sont soit vraiment minéraux, soit plutôt végétaux. Enfin, on vient vraiment s'installer là où on peut, dans le creux. Et donc en fait, on va développer tout un tas de techniques pour venir des retraits, des porte-à-faux, des angles, etc. pour venir installer ce bâtiment qui est très long et qui ne se perçoit jamais comme tel. C'est un petit peu une espèce d'allégorie de la grande échelle, du grand territoire qu'on découvre toujours de façon parcellaire et par morceaux. Mais on en a quand même au final une perception globale. Là, c'est progressif, c'est par passes successives, et c'est un cheminement comme ça qui est assez intéressant parce qu'il est un peu aussi initiatique, et du coup il y a une certaine poésie qui s'en dégage parce qu'on a des choses viennent doucement, les choses ne s'imposent pas, l'architecture ne s'impose pas de prime abord, c'est pas elle qui nous saute à la figure comme ça aux yeux, mais elle reste tapis et c'est toujours quelque chose d'un peu sourd qui vient nous remuer et nous bousculer. Donc on a une écriture d'aujourd'hui. Et ça donne du sens quoi, dans le continuum et cette idée d'occupation continue. Voilà, donc des matériaux très simples, nobles, des teintes qui se rapportent à ce qu'on trouve, c'est-à-dire des palettes de gris, et qui permettent à la végétation qui s'exprime parce qu'elle est tellement dense, tellement belle, que voilà, la couleur de la lumière en est modifiée. Quoi. Et le bâtiment joue de ça. Un dispositif acoustique qui a été calculé, qui a été voulu, qui soit en mesure d'offrir un moment de calme. Parce que finalement, quand on prend la grande rue du Pi, on a un grand espace avec le grand banc. Finalement, c'est un non-espace quoi, pour ce plan programmatique. Et pourtant, ça devient le lieu, pratiquement le lieu principal. Et c'est peut-être le lieu qui frappe le plus les visiteurs, c'est cette grande artère là, qui est baignée dans la lumière et qui calme. C'était notre but, c'était de faire rentrer les gens dans cet espace-là et de leur dire vous n'êtes ni à moins 400 000, ni à moins 100 000, ni en 1920, ni en rien du tout. Vous êtes dans un endroit qui est extrait de la chose, temporel. Et on va re-questionner la question de 400 000. Thank you.